Exposition biblique, chapitre 11. L'ordre du culte est la véritable signification de la scène du Seigneur. L'ordre du culte est la véritable signification de la Sainte Communion. N'est-il pas juste pour un véritable saint de vivre en suivant la foi de Paul ? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Selon l'enseignement de la Bible, on peut dire qu'il est juste pour un véritable saint de vivre en suivant l'exemple de foi montré par l'apôtre Paul. C'est parce que Paul n'était pas simplement une personne qui énonçait les doctrines de la foi, mais une personne qui a montré quel genre de chemin est le chemin de la propagation de l'Évangile à travers sa propre vie de foi. L'apôtre Paul lui-même a également parlé aux saints ainsi. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il exhorte « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Cette parole ne signifie pas de suivre Paul lui-même, mais signifie de vivre en suivant l'exemple de la vie qui suit Christ. Parce que la vie de Paul était une vie de foi et de dévouement envers Christ, elle pouvait devenir un exemple pour les saints. En regardant les caractéristiques de la foi de Paul, plusieurs aspects importants apparaissent. Premièrement, c'est une foi qui place la propagation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au centre de la foi. Paul a placé le but de sa vie dans la propagation de l'Évangile et il a même renoncé à ses droits et à son confort pour le bien de la propagation de l'Évangile. Deuxièmement, c'est une foi qui considère la volonté de Dieu avant soi-même. Paul considérait l'œuvre de Dieu et le salut des gens comme plus important que son propre bénéfice. Troisièmement, c'est une foi qui ne vacille pas, même au milieu des épreuves. Tout en propageant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Paul a connu de nombreuses difficultés et persécutions. Mais il n'a pas abandonné sa mission. Quatrièmement, c'est une foi qui s'appuie sur la justice de Dieu avec un cœur humble. Il ne se vantait pas de ses propres capacités et attribuait tout à la grâce de Dieu. Cependant, le but pour nous de suivre Paul n'est pas d'élever la personne nommée Paul, mais de croire et de suivre Jésus-Christ que Paul a suivi, et d'apprendre la parole de l'Évangile de la vérité du salut. La vie de Paul était un modèle montrant comment l'Évangile de Jésus-Christ apparaît dans la vie d'une personne. En fin de compte, un véritable saint croit que le bon chemin n'est pas simplement de comprendre la foi uniquement par la connaissance, mais de suivre l'attitude de foi montrée par Paul, c'est-à-dire la direction de vie qui vit centrée sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qui vit pour Dieu. Cette vie de foi conduit finalement à une vie qui suit Christ. Paul commence par l'exhortation suivante « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Ici, le critère n'est pas Paul en tant qu'individu, mais le chemin de la foi qui croit en l'Évangile de la vérité du salut que Christ a accompli. Le Jésus-Christ que Paul croit et suit est celui qui a reçu le baptême de Jean, a eu les péchés du monde transférés sur son propre corps, a reçu le jugement du péché sur la croix et a confirmé qu'il est lui-même le sauveur de l'humanité par la mort et la résurrection. La vie entière de Paul a été une vie où il s'est abaissé afin de ne pas obscurcir ou déformer l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et il est celui qui nous a dit d'imiter exactement une telle attitude de foi. N'est-il pas juste de vivre par la foi en faisant de son mieux selon l'ordre établi par Dieu ? Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter ? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile ? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 16. Selon l'enseignement de la Bible, il est tout à fait juste de vivre par la foi en faisant de son mieux selon l'ordre établi par Dieu. C'est parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais un Dieu d'ordre et il a établi un ordre afin que la vie humaine et la communauté puissent être édifiées justement dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 14 verset 33 « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix ». De plus, au verset 40 du même chapitre, il exhorte, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Cette parole montre que la communauté qui suit Dieu et la vie de foi doivent être menées dans l'ordre et la responsabilité. Il existe divers domaines dans l'ordre établi par Dieu. Même au sein de l'Église, il y a des rôles et des fonctions confiés à chaque personne, et dans la famille et le lieu de vie, il y a des responsabilités et des positions permises par Dieu. Cet ordre n'est pas fait pour opprimer les gens, mais c'est une structure pour édifier la communauté et s'entraider. De plus, une vie vécue dans l'ordre établi par Dieu est une vie liée à la foi. La foi ne consiste pas simplement à penser avec l'esprit, mais elle apparaît comme une vie qui se vit fidèlement dans le lieu qui nous est confié, tout en faisant confiance à Dieu et à la parole de Dieu par la foi. Par conséquent, la Bible exhorte chaque personne à vivre avec Dieu dans le lieu où elle a été appelée. Plusieurs attitudes importantes sont nécessaires pour une telle vie. Premièrement, c'est un cœur qui respecte la volonté de Dieu. Plutôt que de suivre uniquement ses propres pensées, une attitude consistant à reconnaître les principes établis par Dieu est nécessaire. Deuxièmement, c'est un cœur avec une foi qui est loyale dans le lieu confié. Dieu regarde à quel point on vit en croyant par la foi dans ce lieu, plutôt qu'à l'importance de la position d'une personne. Troisièmement, c'est une attitude consistant à vivre par la foi qui croit en Dieu et en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est une vie qui se vit en faisant confiance à la parole de Dieu plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur ses propres forces. En fin de compte, la foi qui vit par la foi en croyant à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, en faisant de son mieux selon l'ordre établi par Dieu, est l'apparence d'une vie qui plaît à Dieu. Une telle vie n'établit pas seulement la foi de l'individu de manière droite, mais rend également la communauté saine, et devient une foi qui permet à la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie. Ce passage est souvent mal compris, mais son cœur n'est pas une question de vêtements ou de coutumes culturelles. Paul parle d'ordre. Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Cet ordre n'est pas une hiérarchie de valeurs intrinsèques, mais signifie le flux du salut et la structure de la responsabilité. Lorsqu'on le regarde à travers le prisme de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu est le concepteur du salut, Jésus-Christ est celui qui a accompli le salut par le sacrifice du baptême et de la croix, et le croyant est celui qui reçoit cette parole de l'Évangile du salut et vit la vie d'un témoin. Le danger survient lorsque cet ordre de foi est détruit sous le prétexte de la foi. À ce moment-là, le culte offert à Dieu devient-il un témoignage de l'Évangile, ou révèle-t-il soi-même ? Paul pose cette question pointue en empruntant le langage culturel du port ou du non-port du voile à l'époque. Votre culte révèle-t-il la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ou vous révèle-t-il vous-même? L'Église primitive célébrait-elle la Sainte Cène à chaque fois qu'elle se réunissait? En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 22. Il est difficile de conclure que l'Église primitive célébrait nécessairement la Sainte Cène à chaque fois qu'elle se réunissait, mais il est clair que la Sainte Cène était pratiquée très fréquemment dans les rassemblements de l'Église primitive. En regardant le Nouveau Testament et les archives de l'Église primitive, nous pouvons savoir que la Sainte Cène occupait une place importante dans les rassemblements des saints. Premièrement, Actes chapitre 2, verset 42 explique la vie de foi fondamentale de l'Église primitive ainsi « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ici, la fraction du pain est comprise par de nombreux théologiens comme signifiant la communion à table incluant la Sainte Cène. Il semble que les saints de l'Église primitive se réunissaient pour manger et prenaient un temps pour commémorer la scène du Seigneur. De plus, dans Actes chapitre 20, verset 7, il y a un récit disant « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain ». Cette parole montre que l'Église primitive faisait de la fraction du pain, c'est-à-dire de la Sainte Cène, un élément important du culte lors des rassemblements du dimanche. Cependant, la Sainte Cène de l'Église primitive n'était pas simplement un format pratiqué au sein de l'ordre du culte comme dans les églises d'aujourd'hui. À cette époque, elle était souvent célébrée en même temps qu'un repas communautaire, repas d'agape. Pendant que les saints mangeaient ensemble, ils partageaient la Sainte Cène commémorant la mort du Seigneur. Mais au fil du temps, divers problèmes liés au repas communautaire sont apparus. Dans 1 Épître aux Corinthiens 11, Paul reproche le fait qu'il y avait des cas où certaines personnes arrivèrent les premières et mangèrent beaucoup, tandis que d'autres étaient affamées. Ainsi, Paul a réaffirmé la signification de la Sainte Cène et leur a enseigné à garder justement la sainte signification de la commémoration du corps et du sang du Seigneur. Dans l'histoire qui a suivi l'Église primitive, la fréquence de la Sainte Cène variait légèrement d'une église à l'autre. Certaines églises la pratiquaient chaque semaine et d'autres la pratiquaient une fois par mois ou lors d'occasions spéciales. Pour résumer, c'est comme suit. Premièrement, la Sainte Cène était un élément très important dans les rassemblements de l'Église primitive. Deuxièmement, il est clair qu'il y avait de fréquentes occurrences de fraction du pain lorsque les saints se réunissaient. Troisièmement, cependant, la Bible ne stipule pas clairement qu'il y avait nécessairement une Sainte Cène à chaque rassemblement. Quatrièmement, dans l'Église primitive, la Sainte Cène était souvent célébrée en même temps qu'un repas communautaire. En fin de compte, pour les saints de l'Église primitive, la Sainte Cène n'était pas un simple rituel, mais un acte de foi communautaire se souvenant du baptême, de la mort et de la rédemption de Jésus-Christ. Ainsi, à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils considéraient la scène du Seigneur comme très importante, au même titre que la parole de Dieu, la communion fraternelle et la prière. Paul parle avec une acuité inhabituelle. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. La raison est claire, c'est parce qu'il y a des factions parmi eux, que les pauvres sont aliénés, que les riches sont tombés dans l'autosatisfaction et que la scène a dégénéré en un repas privé. Ce n'est pas un simple manquement à l'étiquette. C'est un culte dont la substance de l'Évangile s'est vidée. Devant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, tous les hommes étaient également pécheurs. Et ils proclament que par le baptême de Jésus, les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus et que par le sang de la croix, tous ont été également rachetés. Cependant, lorsqu'il y a des classes et de la discrimination parmi ceux qui viennent à l'Église, cela devient un reniement de la parole de l'Évangile elle-même. L'essence de la scène. Non pas un acte rituel, mais la commémoration de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est à la nouvelle alliance en mon sang. » « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Paul déclare à nouveau la scène avec une autorité solennelle. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » La scène n'est ni un rituel pour laver à nouveau les péchés, ni un moyen d'obtenir une nouvelle grâce. C'est une preuve qui se souvient et proclame le salut qui a déjà été pleinement accompli. Le pain symbolise le corps de Jésus, c'est-à-dire le corps de Jésus sur lequel les péchés du monde ont été transférés par le baptême reçu de Jean, et la coupe parle du sang versé sur la croix, c'est-à-dire le sang qui a satisfait au jugement du péché. La parole « en mémoire de moi » est une parole qui nous dit de ne jamais oublier mais de croire en l'Évangile accompli de l'eau et de l'Esprit. comme Paul le déclare, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La scène est par essence un acte de culte qui proclame par la foi la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Lors de la cérémonie de la Sainte Cène, celui qui mange tout en ignorant sa signification ne devrait-il pas être considéré comme commettant un péché contre le Seigneur? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29. Selon les enseignements de la Bible, participer de manière imprudente, sans réaliser la signification de la Sainte Cène, peut être considéré comme commettant un péché contre le Seigneur. L'apôtre Paul explique et met en garde contre ce problème très strictement. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 27, Paul dit ceci : « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Cette parole montre que la Sainte Cène n'est pas un simple repas ou un rituel religieux, mais un acte saint consistant à se souvenir du corps et du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire du baptême et du sacrifice du Seigneur. Par conséquent, participer tout en ignorant ou en prenant à la légère la signification de cette foi n'est pas une simple erreur, mais peut être une attitude consistant à prendre à la légère le sacrifice du Seigneur. De plus, Paul exhorte par la suite, dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 28 à 29, ainsi, « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Ce qui est important ici, c'est le cœur de foi qui s'examine lui-même. La Sainte Cène n'est pas un lieu pour participer de manière formelle, mais un lieu où l'on doit participer avec un cœur de révérence par la foi, en se souvenant de la grâce du salut et du sacrifice que le Seigneur a accompli. Dans l'Église primitive, la Sainte Cène n'était pas une simple cérémonie, mais un temps où les saints se réunissaient pour commémorer le baptême et la mort du Seigneur sur la croix et pour réaffirmer la signification de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, Paul a considéré comme un problème très grave le fait que la Sainte Cène soit traitée à la légère au sein de la communauté. Participer dignement à la Sainte Cène ne signifie pas que l'on doit devenir une personne parfaite, mais cela parle de la foi de participer en croyant à cette parole de l'Évangile du salut et en se souvenant de la parole de l'Évangile du Seigneur. Lorsqu'on y participe avec un cœur humble devant Dieu, en jetant un regard rétrospectif sur sa vie, la Sainte Cène devient un temps précieux pour édifier la communauté de foi. En fin de compte, le principe de foi dont parle la Bible est clair. La Sainte Cène n'est pas une simple formalité, mais un lieu pour se souvenir et rendre grâce pour le baptême de Jésus-Christ, le sacrifice de la croix et la rédemption du péché. Par conséquent, il n'est pas juste que quelqu'un participe tout en ignorant la signification de la cérémonie de la Cène et un croyant doit participer à la Sainte Cène avec un cœur respectueux se souvenant du corps et du sang du Seigneur. Que signifie-t-il le pain et le vin lors de la cérémonie de la Sainte Cène? Lors de la cérémonie de la Sainte Cène, le pain et le vin parlent du corps et du sang de Jésus-Christ et sont des signes qui nous font nous souvenir de l'œuvre de salut accomplie par le Seigneur. Jésus lui-même en a expliqué la signification alors qu'il partageait le dernier repas avec ses disciples. Premièrement, le pain signifie le corps de Jésus-Christ. Jésus a rompu le pain avec ses disciples et a dit ceci : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc chapitre 22, verset 19. Première épître aux Corinthiens chapitre 11, verset 24. Cette parole, plutôt que de signifier que le pain lui-même devient littéralement son corps, consiste à commémorer avec le pain l'œuvre de Jésus qui a pris les péchés du monde transférés sur son corps et les a lavés par le baptême reçu de Jean afin de sauver les pécheurs du péché. En partageant le pain, les saints gravent dans leur cœur le fait que Jésus s'est livré pour nous. Ensuite, le vin signifie le sang de Jésus-Christ. Jésus a donné la coupe et a dit ceci : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » Luc chapitre 22, verset 20. Le sang de Jésus pointe vers le sang versé sur la croix. Et nous devons savoir que parce que le prix du péché de l'homme a été payé par ce sang, une relation de foi pour obtenir une nouvelle vie par la foi a été établie. Nous devons avoir la foi qui croit au fait que la nouvelle alliance de Dieu a été établie dans nos cœurs par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par le prix de son sang. Par conséquent, le pain et le vin dans la Sainte Cène contiennent trois significations importantes. Premièrement, l'œuvre d'avoir eu les péchés du monde transférés par le baptême de Jésus-Christ et la Sainte Cène commémore le fait que Jésus a subi le jugement du péché sur la croix et nous a donné le salut en payant le prix de la nouvelle vie avec son sang. Deuxièmement, cela a la signification de confirmer la nouvelle alliance. Cela indique qu'une nouvelle relation d'alliance a été établie entre Dieu et l'homme par le baptême de Jésus et le sang de la croix. Troisièmement, cela a la signification de représenter l'unité communautaire des saints. Partager un seul pain montre le fait que les saints sont une communauté unie en un seul en Christ. L'apôtre Paul explique également la signification de la Sainte Cène dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 11, verset 26 ainsi. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » En fin de compte, le pain et le vin dans la Sainte Cène ne sont pas de la simple nourriture, mais des marques de salut qui nous font nous souvenir du corps et du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire du sacrifice et de la rédemption du Seigneur. À travers cette cérémonie, cela devient une occasion pour les saints de se souvenir à nouveau du baptême que le Seigneur a reçu de Jean et du sacrifice de la croix. Le pain de la Sainte Cène est pour commémorer la chair de Jésus. C'est-à-dire que c'est pour commémorer le fait que Jésus a eu les péchés du monde entier transférés sur lui en recevant le baptême de Jean. Que le pain utilisé dans la Sainte Cène signifie la chair de Jésus est clairement ce que dit la Bible. Jésus a rompu le pain lors du dernier repas et a dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous » Luc chapitre 22 verset 19. De plus, dans le chapitre 6 de Jean, Jésus a parlé de lui-même comme « le pain vivant qui est descendu du ciel » et a dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle » Jean chapitre 6 verset 51 à 54. Ces paroles montrent le fait que le corps de Jésus est lié à l'œuvre de salut pour les gens. Dans le Nouveau Testament, le fait que le corps de Jésus ait été donné pour les gens peut être compris comme l'Évangile qui a accompli toute l'œuvre rédemptrice de Jésus, c'est-à-dire l'œuvre de salut dans laquelle il a reçu le baptême donné par Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et a accompli notre salut par sa mort sur la croix et sa résurrection. Jésus a reçu le baptême de Jean au début de son ministère public, Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Et après cela, en étant suspendu sur la croix et en saignant à mort, il a subi le jugement de nos péchés à notre place et a donné le salut de l'effacement des péchés à ceux qui croient. Tout cela était la preuve accomplie de la nouvelle alliance que Dieu a promise à l'humanité. Par conséquent, la Sainte Cène est un signe de foi qui commémore ce ministère du baptême et de la croix de Jésus. Ainsi, lorsqu'on comprend le pain de la Cène comme le corps de Jésus, cela ne signifie pas simplement le corps physique, mais nous devons nous souvenir du baptême que Jésus a reçu de Jean pour nous. La Cène explique la raison pour laquelle nous devons commémorer le ministère du baptême de Jésus et le ministère de la croix. L'apôtre Paul dit également ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 11, verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Cette parole montre que la Cène n'est pas un simple rituel, mais un acte consistant à se souvenir et à proclamer l'événement rédempteur de Jésus. Par conséquent, le pain de la Cène commémore le fait que les péchés du monde ont été transférés par le baptême de Jésus et le baptême que Jésus a reçu de Jean explique la raison du sacrifice de Jésus sur la croix. L'événement de Jésus recevant le baptême donné par Jean est un événement important qui montre que Jésus devait subir le jugement du péché sur la croix. Ainsi, par la Cène, les saints peuvent savoir avec acuité le fait que Jésus nous a sauvés, nous qui croyons, par le baptême qu'il a reçu de Jean et le sacrifice de la croix. Nous devons savoir que le ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean et le sacrifice de la croix sont liés l'un à l'autre. Et par la foi, nous devons devenir ceux qui croient, se souviennent et commémorent éternellement le ministère de Jésus composé de ces deux axes. Paul lance un avertissement sévère. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ici, le mot « indignement » ne signifie pas un état sans péché ou une perfection morale. C'est manger sans comprendre si les péchés du monde sont passés sur le corps de Jésus par son baptême, accepter la croix simplement comme un symbole religieux ou s'approcher de la Cène par habitude ou comme une formalité vide. C'est exactement ce qui devient le péché de manger et de boire sans discernement. Ne serait-il pas juste de participer à la Sainte Cène avec la foi croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean et au sang précieux de la croix ? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Première épître aux Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32. Selon l'enseignement de la Bible, il est juste que ceux qui participent à la Sainte Cène y participent avec la foi croyant au ministère de salut de Jésus-Christ. C'est parce que la Sainte Cène n'est pas un simple rituel, mais un lieu pour se souvenir et accepter par la foi l'œuvre de salut accomplie par Jésus. Jésus a donné le pain et la coupe lors du dernier repas et a dit ceci. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Ces paroles montrent que la Sainte Cène est une cérémonie pour se souvenir de l'événement de la rédemption que Jésus a accompli pour nous. Ainsi, la Sainte Cène n'est pas simplement un acte consistant à manger du pain et du vin, mais un acte de foi qui commémore le ministère de Jésus par la foi. Le ministère de salut de Jésus a commencé dès le début de son ministère public, c'est-à-dire l'événement de recevoir le baptême de Jean et a été accompli par le sang versé sur la croix et la résurrection. Par le baptême, le ministère public a été ouvert et par la mort sur la croix, l'événement rédempteur qui a complètement résolu le problème du péché de l'humanité a été accompli. La Sainte Cène est exactement le lieu pour se souvenir et confesser tout ce ministère de salut de Jésus. L'apôtre Paul donne également une exhortation très importante concernant la Sainte Cène. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 28, il dit « Que chacun don s'éprouve soi-même et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. » Cela nous dit que la Sainte Cène ne devrait pas être une simple participation formelle, mais qu'il faut y participer avec foi et un cœur respectueux. La foi pour participer à la Sainte Cène était le ministère du Sauveur qui nous fait savoir que Jésus a eu nos péchés transférés sur son corps. Par le baptême qu'il a reçu de Jean, a subi le jugement du péché sur la croix, a versé son propre sang pour payer le prix de nos péchés pour nous et nous a donné le salut. Chaque fois que nous accomplissons la cérémonie de la Cène, nous devons devenir ceux qui connaissent l'importance du ministère de Jésus et participent à la cérémonie de la Cène avec la foi croyant dans nos cœurs, recevant ainsi des bénédictions spirituelles. Les saints doivent prendre un temps pour se souvenir à nouveau du sacrifice et de la rédemption du Seigneur à travers le pain et la coupe, et pour renouveler leur foi sauvée. Par conséquent, il est approprié que l'on participe à la Sainte Cène avec la foi croyant au ministère de salut de Jésus-Christ, devenant ceux qui rendent de gloire au Seigneur. Pour une personne qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, on peut dire que la bonne attitude est de se souvenir du baptême du Seigneur et du sacrifice de la croix, et par la foi de devenir ceux qui rendent gloire au Seigneur en croyant en la justice du Seigneur. Paul observe « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Il ajoute immédiatement « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Par conséquent, une discipline appropriée n'est pas un dispositif pour annuler le salut, mais un moyen de grâce pour ramener ceux qui se sont égarés vers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Conclusion, la Sainte Cène partagée en s'attendant les uns les autres. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Premier épître aux Corinthiens chapitre 11, versets 33 à 34. Paul conclut par une exhortation très pratique. Attendez-vous les uns les autres. N'utilisez pas le rassemblement pour satisfaire une fin personnelle. Ne prenez pas la Sainte Cène à la légère. Parce que la Sainte Cène est la preuve d'une communauté unie par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Premier épître aux Corinthiens. 11 nous demande aujourd'hui « Votre culte et votre participation à la Sainte Cène sont-ils un lieu pour vous souvenir de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit déjà accompli ? Ou s'agit-il simplement d'un rituel religieux sans substance ?»